RTL Info.
Le journal de David Sanchez.
Bonjour, l'enseignement à distance est en vigueur depuis bientôt 3 semaines en Suisse. Des plateformes numériques ont été mises en place par les établissements scolaires. Elles permettent de garder le lien indispensable entre profs et élèves. Et réunis à Berne, les directeurs cantonaux de l'instruction publique ont annoncé qu'ils se tiendraient au calendrier usuel. Il n'y aura donc pas d'école en juillet. Le château et musée de Valangin va revêtir un air médiéval jusque dans son jardin. Il va présenter à partir de fin juin 8000 m² de végétaux présents dans la région il y a plus de 600 ans. Ce soir, temps sec et ciel largement dégagé au programme. La nuit sera donc étoilée et un peu moins froide que les jours précédents. Les enseignants doivent se renouveler pour assurer l'enseignement à distance. Depuis bientôt 3 semaines, ils utilisent des plateformes numériques pour communiquer avec leurs élèves. L'un des défis en cette période particulière, éviter le décrochage d'élèves qui risquent de se retrouver livrés à eux-mêmes. Yann Martinelli est enseignant de cycle 3 au centre des Deux-Tielles. Il reste plutôt confiant.
On a un peu moins de regard sur eux, ça c'est vrai. Après, on communique beaucoup ici avec les parents. On a plusieurs canaux de communication. Que ce soit des mails, enfin simplement le téléphone. On a une plateforme qui a été mise en place par nos directions qui est vraiment très performante. Donc, on peut vraiment avoir un regard qui a fait l'activité, quand, comment. On peut aussi demander un retour de la part des élèves. Ils peuvent nous envoyer des photos, des mails. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités différentes. Moi, par exemple, j'y suis en vidéoconférence, soit en groupe, soit de manière individuelle. Donc, ça nous permet d'avoir ce regard. Alors, certes, on n'est pas à côté d'eux pour corriger, les voir travailler, etc. Mais on a un regard qui me paraît quand même assez efficace. Ouais.
Donc vous n'êtes pas trop inquiet globalement?
Je ne suis pas trop inquiet. Après, c'est vrai qu'il faut... Alors ça va demander de l'autonomie de leur part, ça c'est sûr. On ne va pas pouvoir les surveiller comme on les surveillerait à l'école. Mais je ne suis pas inquiet parce que les retours sont assez bons. J'ai beaucoup de retours d'élèves qui mettent au travail, qui posent des questions pertinentes. Donc ça prouve qu'ils font les exercices. Pour l'instant, je ne suis pas trop inquiet, non.
Des propos recueillis par Aude Raimondi. Et sur le plan national, cette année scolaire en vaudra une autre, que ce soit au niveau des diplômes ou du calendrier. Face à la crise liée au coronavirus, les cantons annoncent aujourd'hui s'être accordés sur un certain nombre de règles, comme le respect des vacances scolaires. Il n'y aura pas d'enseignement à distance durant la pause de Pâques et il est exclu d'envisager un retour en classe des élèves, étudiants et apprentis en juillet ou en août, quoi qu'il se passe après le 19 avril. La conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique s'en tient au calendrier usuel. Sa vice-présidente, la conseillère d'État neuchâteloise, Monica Merefti.
Le manque de 3-4 semaines d'école est possible de combler sur le reste de l'année scolaire. Si nous ne pourrions pas reprendre l'école avec l'enseignement présentiel, on a un autre scénario que nous devons mettre en œuvre dans nos différents cantons. Jusqu'à maintenant, le mot d'ordre était plutôt de dire on va consolider les acquis, mais on n'introduit pas de nouvelles notions. Ça ne pourra pas être tenu si nous devons envisager l'enseignement en ligne au-delà du mois de mai.
Les cantons édicteront des règles pour le passage de niveau, les certificats et les examens dans les semaines à venir. Les examens pratiques dans la formation professionnelle sont déjà supprimés. L'État neuchâtelois renonce à 2 mois de loyer pour ses locaux commerciaux. Les PME seront exemptées pour les mois d'avril et mai. De quoi les soulager en période de crise. Le Conseil d'État invite les acteurs parapublics à étudier une mesure similaire. Il s'est également approché des banques pour demander de rééchelonner les échéances d'amortissement. À Neuchâtel, le nombre de cas déclarés était de 402 du coronavirus ce midi et le nombre de décès se montait à 19. Cet après-midi, l'Office fédéral de la santé publique annonçait que la Suisse comptait désormais 18 267 cas testés positifs au coronavirus, soit 1128 de plus que la veille et 432 décès des suites de la maladie. Avec 213 cas pour 100 000 habitants, la Suisse compte désormais la contamination par habitant la plus élevée en Europe. Et cet après-midi à Berne, Daniel Kor, responsable de la division maladies transmissibles à l'OFSP, est revenu sur les derniers chiffres de l'évolution du Covid-19. Selon Daniel Kor, le pic de l'épidémie n'a pas encore été atteint, mais l'augmentation n'est plus aussi grave. Il est en revanche trop tôt pour faire un pronostic fiable sur ce qui va se passer durant les prochaines semaines. Il est donc trop tôt pour réduire les mesures. La Suisse crée une task force composée d'experts pour tenter de maîtriser la pandémie. Elle réunira des scientifiques et spécialistes de différents domaines. Cette nouvelle cellule conseillera notamment les politiciens. Les autorités évaluent par ailleurs toujours la possibilité de localiser les personnes par Bluetooth. Question de la protection des données doit encore être étudiée. Les premières analyses des relevés Swisscom sur les attroupements montrent pour le moment une diminution des mouvements de la population. Il y a 26 000 chômeurs de plus en Suisse depuis 15 jours. Ce chiffre a été dévoilé aujourd'hui à Berne par le chef du secrétariat d'État à l'économie, Eric Scheidegger. Environ 1,2 million de demandes pour du chômage technique ont été déposées. Actuellement, le taux de chômage est de 2,7%. Les entreprises pourraient disposer d'un délai de répit avant une éventuelle faillite. L'Office fédéral de la justice a mis en consultation un projet qui leur donnerait un répit de 6 mois. Quelques problèmes pratiques et juridiques doivent encore être réglés. L'assouplissement de la mise en faillite doit aussi donner plus de temps aux créanciers, aux débiteurs et à la justice. Un drive-in de dépistage est opérationnel depuis aujourd'hui à Berne. Les inscriptions se font en ligne. Il est également ouvert aux personnes qui n'appartiennent pas au groupe à risque. Les personnes qui pourraient être porteuses du virus peuvent s'y faire tester rapidement sans sortir de leur voiture pour à la fois des raisons de sécurité et de rapidité et sans la recommandation d'un médecin. Entre 200 et 300 tests peuvent être effectués chaque jour par le personnel médical. Ce projet pourrait être étendu ailleurs en Suisse. L'Argovie fait appel à la vidéosurveillance pour contrôler le respect des mesures de protection dans l'espace public. Son gouvernement a décrété une ordonnance en ce sens et l'entre en vigueur avec effet immédiat. Pour contrôler les interdictions prononcées par le Conseil fédéral, la police argovienne peut désormais compter sur les caméras homologuées par le service de protection des données. Elle surveillera ainsi les éventuels rassemblements dans l'espace public afin de pouvoir intervenir. Et à l'étranger, l'Union européenne est inquiète. 14 États européens ont mis en garde ce jeudi contre les violations de l'état de droit dans l'Union, motif de lutter contre l'épidémie de Covid-19. Ces membres de l'UE ont dans leur viseur le Premier ministre hongrois qui vient de s'octroyer des pouvoirs quasi illimités dans ce cadre. Viktor Orban a obtenu lundi le feu vert du Parlement pour légiférer par ordonnance dans le cadre d'un état d'urgence d'une durée indéterminée au motif de lutter contre le nouveau coronavirus. La déclaration est ouverte aux autres États membres qui souhaitent la signer. Le mois d'avril sera chômé, mais payé en Russie. C'est ce qu'a annoncé le président Vladimir Poutine dans un discours télévisé, mesure qui vise à gagner du temps pour ralentir la progression du virus. Les régions pourront néanmoins choisir quelles entreprises seront autorisées à travailler et le mode de confinement imposé à la population. Et un député britannique veut taxer les clubs de foot anglais qui ne se montrent pas assez solidaires durant la crise. Le président de la commission en charge des sports vise les clubs qui mettent au chômage des salariés mais continuent à payer les joueurs. Il demande également à la Première Ligue de trouver un accord avec les sportifs pour une baisse de salaire. Aucun club de l'élite n'a pour le moment annoncé de sacrifice financier des joueurs, mais certains dirigeants ont baissé leur rémunération. C'est définitivement terminé pour Blanchatel. La blanchisserie industrielle de La Chaux-de-Fonds a fermé ses portes fin février. Les employés ont reçu leur lettre de licenciement fin mars. Le site comptait une soixantaine de personnes, dont 44 au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Certaines ont retrouvé un emploi dans le groupe Elis Suisse, à qui appartenait Blanchatel, alors que 33 se retrouvent sans solution. Un plan social est actuellement en discussion avec le syndicat Unia. Le syndicat espère qu'il sera finalisé la semaine prochaine. Un jardin d'inspiration médiévale au château et musée de Valangin. Il devrait être présenté au public fin juin si la pandémie due au coronavirus permet de le mettre sur pied d'ici là. Ce jardin de 8000 m² va se décliner en 9 zones et 9 thèmes. Parmi eux, le jardin des toxiques ou celui des herbes médicinales. Camille Jéquier, directrice et conservatrice du château et musée de Valangin.
On a vraiment fait des recherches pour retrouver les plantes qui poussaient ou que les gens de la région connaissaient au XIVe et XVe siècle. Alors des fois, c'est un petit peu plus loin que la région de Neuchâtel. Ça peut être en France voisine ou comme ça. Mais on a vraiment essayé de trouver des plantes qui déjà poussent dans la région de Valangin parce qu'une plante, c'est vivant. Donc il faut que ça puisse pousser autour du château. Et puis, quelque chose qu'on connaît dans la région. Il y a certaines plantes qui sont plus difficiles à trouver dans la nature, disons. Mais en principe, pour les plantes médicinales, beaucoup d'entre elles peuvent se trouver aussi dans la forêt ou dans les jardins.
Est-ce que vous avez des exemples de ces plantes médicinales, peut-être celles que l'on trouve encore dans les jardins et puis celles où il a fallu faire un peu plus de recherches?
On a des plantes, évidemment, comme la menthe, la sauge, qui étaient très utilisées. On a des plantes comme la pulmonaire, par exemple, qui aide dans le cas de bronchite. On a de la chélidoine. On a plus de 50 ou 60 plantes différentes qui sont, celles-là, assez faciles à trouver. Il y en a d'autres qui sont un peu plus difficiles, notamment aussi parce qu'elles peuvent être toxiques, comme la digitale, qui, elle, peut se trouver assez facilement, l'aconite, la belladone, ce genre de plantes.
Camille Jacquier au téléphone de Sarah Massy. L'idée est de garder ses jardins plusieurs années, voire à vie, compte tenu que l'investissement se monte à environ 170 000 francs.
18h11 sur RTL, on va prendre des nouvelles du ciel. Et pas grand chose à vous dire, hein, ça va pas bouger beaucoup, donc ciel dégagé encore pour cette fin de journée ce soir. Et cette nuit, une nuit qui sera un petit peu moins froide que ce qu'on a connu ces dernières nuits. Et ces conditions belles et ensoleillées qui vont se maintenir encore jusqu'en milieu de semaine prochaine au moins. Et des températures qui vont progressivement remonter. Pas encore tout à fait demain, il fera 12 degrés au maximum en pleine, 7 à 1000 mètres. Mais dès le week-end, on atteindra normalement les 15 à 18 sur la région. Et puis on devrait même s'approcher des 20 degrés en pleine dès lundi.
L'actualité quand vous voulez sur rtn.ch et l'application RTN.